Magnifique, merci pour ce moment de louange et cette intro qui introduit parfaitement ce qu'on va voir, lire ensemble ce matin, ce chapitre 40 avec des promesses qui nous relèvent. On va continuer notre chemin donc dans ce livre d'Ésaïe. On est déjà au chapitre 40. Johan a fait le choix de ne pas faire 66 prédications sur ce livre. Merci à lui. Et on a donc fini ces 39 premiers chapitres qui étaient des paroles de jugement de Dieu pour son peuple. Alors on va continuer à cheminer, vous verrez que les promesses, ça ne veut pas dire qu'on est arrivé, heureusement, mais cheminer avec des promesses, c'est un peu comme en rando, quand on a fait une bonne partie de montée avec rien du tout dans la nuit, on voit juste les pas devant nous, c'est moins drôle. Ces 26 chapitres qui s'ouvrent du 40 au 66, c'est des promesses de Dieu pour son peuple. C'est comme si on devait continuer notre marche avec ce livre d'Ésaïe, mais avec une vue sympa. On est récompensé de nos efforts, alors on doit continuer à avancer. Vous verrez que des efforts, il y en a encore à faire. Mais c'est comme marcher avec un magnifique panorama comme ça, c'est un petit peu plus agréable. Donc ce chapitre 40, on va ce matin lire les 11 premiers versets ensemble. Et ça ouvre donc cette deuxième partie, parce que les 39 premiers chapitres ont annoncé le jugement de Dieu sur son peuple. On avait vu dans toutes les prédications jusqu'à maintenant que Dieu prononçait des jugements parce que le peuple avait désobéi et atteint un point de non-retour. Et Dieu punit ce péché. L'aboutissement de tous ces jugements, donc, sont l'exil à Babylone, un peuple cruel où le peuple de Dieu est malmené, et surtout Jérusalem et le temple sont complètement détruits, tout le monde est dévasté. Le dernier verset avant ce chapitre 40, c'est donc la fin du 39 où Ésaïe prophétise cette destruction de Jérusalem et du temple. Et puis 100 ans plus tard, le livre de Deux Rois, les chapitres 24-25, nous confirme qu'effectivement, Babylone attaque et détruit Jérusalem. Alors ces prophéties sont donc en avance de ce qui va se passer, mais à la fois le peuple juif s'en saisit aussi à Babylone quand il les a dans les mains, et évidemment à son retour. Donc on peut se saisir de ces promesses avant de passer par des temps difficiles, pendant qu'on traverse le désert, ou après, pour se rappeler les promesses de notre Seigneur. Pourquoi c'était si embêtant ou dévastateur d'être à Babylone, c'est pas uniquement parce que c'était pas chez moi et du coup j'ai déménagé, je suis plus très bien, mais ne plus avoir le temple pour le peuple juif, c'était ne plus avoir accès à Dieu. C'est par là que passaient leurs relations à Dieu, les sacrifices pour se purifier, pour avoir accès à Dieu, c'était le temple. Et sans le temple, ils n'ont plus rien. Alors le message de ce chapitre 40, c'est un message d'espoir qui dit à un peuple qui traverse la souffrance que Dieu ne les a pas abandonnés pour autant. Ces 11 premiers versets sont donc les premiers de cette nouvelle partie et introduisent, comme une bonne introduction, tous les thèmes qui vont être développés dans les 26 chapitres suivants. On a le thème de la consolation, la libération, la gloire du Seigneur et la puissance de sa parole, et finalement la toute-puissance et la tendresse du Sauveur d'Israël. Et c'est ces quelques thèmes qu'on va effleurer, trois particulièrement, ce matin en lisant ce texte. Et on va découvrir par la voix du prophète Dieu qui dit à son peuple, qui rétablit la vérité là où il y avait le mensonge, qui redonne l'espoir là où il y avait désolation, et qui crée la vie là où il y avait la mort et la destruction. Ce message est adressé à un peuple affligé qui n'a plus rien, et Dieu leur offre une espérance. Comme la fin de la louange, Nicolas l'a introduit, ce message est pour les parties de nous, parties de notre histoire, détruites, désolées, ou ces moments où on n'a plus rien et on se demande où Dieu se cache. Alors laissons-le nous parler ce matin. Et on commence par lire les 5 premiers versets. Une consolation pour le peuple, la venue du Seigneur. Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, Redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Rendez courage à Jérusalem. Annoncez-lui à haute voix, les travaux forcés sont terminés pour toi. Tu as fini de réparer ta faute. Le Seigneur t'a fait payer le prix total de tous tes péchés. Quelqu'un crie, dans le désert, ouvrez un chemin pour le Seigneur. Dans ce lieu sec, faites une bonne route pour notre Dieu. Remplissez de terre le creux des vallées, abaissez les montagnes et les collines. Changez en plaine toutes les pentes et les hauteurs en vallées. Alors la gloire du Seigneur paraîtra et tous les habitants de la terre la verront. Voilà l'ordre du Seigneur. Dieu n'est donc pas indifférent à ce que son peuple a traversé. Il commence par leur dire « redonnez espoir ». Il reste leur Dieu, même quand tout s'écroule. Dieu a un plan pour son peuple. Et pour Israël, la première bonne nouvelle, c'est peut-être de réaliser qu'en fait, ils ne sont pas abandonnés. En fait, ils ne sont pas coupés de leur Dieu. Dieu est toujours là. Et Dieu leur dit même dans ce passage, « Je suis votre Dieu ». On lit la désolation dans laquelle ils étaient au psaume 137, par exemple, où ils nous disent « Au bord des fleuves de Babylone, nous nous étions assis et nous pleurions en pensant à Sion, au temple de Jérusalem. » Ils pleuraient de cet abandon de leur Dieu, cette coupure. Ils n'avaient plus accès à Dieu. Et cette première bonne nouvelle qu'on entend ici, cette première consolation, c'est d'entendre, non pas peut-être l'espoir concret de retourner sur nos terres, bien que ça fasse partie de l'annonce, mais la première bonne nouvelle, c'est Dieu qui leur dit « Vous êtes mon peuple. Vous n'êtes pas abandonnés. » Dans le désert, faites un chemin pour le Seigneur. Ces paroles sont reprises par Jean-Baptiste en Luc 3, on les connaît bien quand il prêche son message de repentance pour préparer à la venue de Christ. Et dans la tradition du Sinaï, c'est un symbole, le chemin dans le désert de Dieu qui descend de la montagne et qui traverse le désert pour venir jusqu'à nous. Donc ces versets 3, 4, 5 disent en fait, annoncent la venue du Seigneur. Tout comme Jean-Baptiste le reprend en Luc 3, tout comme on le chante maintenant, c'est un cri de foi de dire « on ne voit pas encore le Seigneur agir, je ne comprends pas pourquoi je suis dans le désert, là il n'y a rien, je suis au bout, je suis coupé », mais c'est un acte de foi que de dire « préparons un chemin pour le Seigneur parce qu'il revient ». Et c'est ce que Henri... Oui, j'ai plein d'images de montagne aujourd'hui avec le printemps qui revient, j'avais envie de grand air apparemment. C'est ce que Henri Blocher appelle une prophétie à double détente ou à deux niveaux. On peut imaginer qu'Isaïe voie ce tableau avec « Dieu revient, préparons un chemin dans le désert ». Et ce n'est pas un problème de se dire, en fait, pour le peuple, ça signifiait « l'exil est terminé, on va pouvoir revenir, Dieu agit, Dieu a envoyé la Perse pour conquérir Babylone, pour qu'on puisse retourner chez nous ». Et en fait, ça veut aussi dire, 5 siècles plus tard, que Jésus vient et que les gens à qui Jean-Baptiste prêche doivent se repentir parce que le Seigneur arrive. Et même, on devine une troisième montagne derrière pour se dire, en fait, ce message, il est encore pour nous aujourd'hui. Faisons le même acte de foi, le même pas de foi que ce peuple dans le désert, que les Juifs du 1er siècle. Nous aussi, préparons le chemin à Dieu qui revient. Cette première consolation que Dieu donne, c'est donc de dire au peuple d'Israël, vous n'êtes pas abandonnés, vous êtes en exil, vous êtes dans la désolation et pourtant je reste votre Dieu. C'est la même chose que Christ vient annoncer en revenant et c'est la même chose que nous pouvons proclamer quand on traverse un désert. Dieu m'aime et Dieu revient. Alors, continuons notre chemin avec les versets 6 à 8. Quelqu'un me dit, crie. Je demande, qu'est-ce que je dois crier? Il répond ceci. Les êtres humains sont comme l'herbe, ils ne sont pas plus solides que les fleurs des champs. Quand le souffle du Seigneur passe, sur elles, l'herbe sèche et la fleur tombe. Oui, les êtres humains sont aussi fragiles que l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu tient toujours. On découvre ici la perspective d'éternité de notre espérance. Et on a aussi un joli parallèle avec l'appel du chapitre 6 qu'on avait déjà lu ensemble, où Ésaïe est appelé au ministère de jugement que Dieu lui confie. Le jugement était déjà prononcé dans le ciel, Ésaïe devait le prononcer au peuple. Et ici, on a les mêmes questions-réponses entre le prophète et Dieu. Au chapitre 6, le prophète avait dit « Que dois-je crier ?» Non, pardon, c'est ici qu'il dit « Que dois-je crier ?» Au chapitre 6, Ésaïe avait dit « Jusqu'à quand, Seigneur ?» quand le Seigneur lui avait dit tous les jugements qu'il avait à annoncer. Et Dieu lui avait répondu « Jusqu'à ce que les villes soient saccagées, sans habitants, et que le territoire soit dévasté, désertique. » On comprend donc que ce temps est arrivé et que le prophète est quand même appelé, encore appelé, à un nouveau ministère, le ministère cette fois de la consolation, de la restauration, le ministère du réconfort. Dieu veut maintenant réconforter son peuple, il veut le relever. Ah, ça vient tout de suite. Ben, je vais vous la mettre tout de suite. Barry Webb, un commentateur d'Ésaïe, dit que dans une situation de souffrance et de désespoir telle que celle du peuple, quand on a tout perdu, quand notre univers tout entier a été détruit et réduit à néant, le réconfort superficiel n'est pas seulement une perte de temps, mais c'est une cruauté. La consolation qui n'est pas en prise avec la réalité n'est absolument pas une consolation. Mais la parole qu'Ésaïe apporte est différente. Pourquoi ? Parce qu'elle est vraie en tout point. Alors la première vérité que nous avons vue tout à l'heure, Dieu ne nous a pas abandonnés, Dieu revient. Première chose sur laquelle se fonder. Deuxième vérité que nous voyons ici, la parole de Dieu est puissante et elle l'est pour toujours. Dieu est fidèle, il l'est éternellement. La métaphore de l'herbe et la fleur met en parallèle notre humanité, nos existences, nos souffrances qui sont toutes éphémères, contrairement à Dieu et sa parole qui est, elle, éternelle. Ésaïe dit « Les êtres humains sont aussi fragiles que l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu tient toujours. » Se reposer sur la parole de Dieu, ce n'est pas du fatalisme, parce que cette parole émerge d'une relation qu'on a avec Dieu. C'est donc se reposer sur la parole de Dieu, c'est se confier en une personne qui s'offre à nous et qui a toutes les ressources nécessaires pour prendre soin de nous. Puisque lui s'oppose complètement à notre côté éphémère, il est éternel. La profonde vérité qui nous est révélée ici, celle à laquelle se raccrocher quand il n'y a plus rien d'autre, c'est la vie éternelle qui nous est offerte par notre Seigneur. Et cette perspective d'éternité m'a fait penser à un film que j'ai vu il y a quelques années qui s'appelle « Beauté cachée », qui est l'histoire d'un jeune père qui est joué par Will Smith, dont la petite fille, la fille toute jeune, décède. Et dans sa vie, tout s'écroule. Il tombe dans une profonde dépression, son couple ne tient pas le choc, il s'isole, il perd son job, il n'a plus goût à rien. On peut comparer un peu cet état, ce que le peuple devait traverser à Babylone. Et alors trois amis qu'on devine en bas engagent trois acteurs, qu'on devine en bas, pour lui faire rencontrer trois thèmes, trois concepts avec lesquels il doit cheminer. Chaque ami engage un acteur en lui disant « toi tu vas lui jouer l'amour ». Toi, tu vas lui jouer le temps et toi, tu vas lui jouer la mort. Et le but de ses amis, c'est de le relever en le confrontant à ces trois thèmes que Will Smith fuit pour cheminer avec ces trois choses qui le font souffrir. Alors la jolie touche d'humour, c'est que chacun de ses amis qui doit s'occuper du suivi avec l'acteur en disant « Est-ce que tout va bien ? Il mord bien à l'hameçon ?» Le film joue un peu avec est-ce que c'est une rencontre surnaturelle ou est-ce que c'est vraiment juste des acteurs. C'est intéressant de cheminer avec ces trois thèmes. Le petit côté humoristique, c'est que chaque ami en fait chemine avec le thème avec lequel il doit faire les débriefs, beaucoup plus que ce que Will Smith a en fait à cheminer. Chacun est travaillé par ces thèmes. Et donc, ce film nous fait cheminer avec ce père qui avance avec ces trois thèmes, l'amour, la mort et le temps. Et donc, ce qu'il fait ressortir, c'est la beauté cachée qu'il y a dans l'acceptation et la résilience face à ces trois choses dont on n'a aucune maîtrise. Alors, ce film est magnifique, surtout si on aime pleurer devant sa télé. Mais il garde un petit goût amer aussi. Parce que l'amour, la perte, la mort, le deuil et le temps qui rattrape chaque être humain sont des expériences qui peuvent nous rapprocher de l'état dans lequel Israël se trouvait en exil. Et quelle est alors dans de tels états la bonne nouvelle que Dieu leur apporte? Comment les consoler? Comment leur rapporter l'espoir? C'est ce qu'il leur promet au début de ces versets. Eh bien, on l'a vu, première bonne nouvelle, première chose que Dieu leur annonce, tu es aimé. Dieu reste ton Dieu, il t'aime et il revient. Tu comptes pour quelqu'un. Et cette deuxième bonne nouvelle, une perspective d'éternité pour cet amour qu'il porte pour toi, il est allé lui jusqu'à la mort pour que toi tu échappes à la fatalité du temps. Il est venu et il s'est donné. Alors les questions existentielles que nous posent tous, chrétiens, non-chrétiens, porteurs d'espérance ou pas, l'amour, la mort et le temps, trouvent leur réponse parfaite en Dieu. Et c'est en ça qu'on peut être porteur d'espérance, c'est en ça qu'on a une différence incroyable à annoncer. Ça ne veut absolument pas dire qu'on comprenne toujours pourquoi et comment on traverse de tels déserts. Mais par contre, ces bonnes nouvelles nous disent que rien ne nous empêche de vivre par la foi dans ce Dieu éternel, l'espérance qu'il nous offre. Alors on découvre maintenant avec la suite du texte qu'est-ce qu'on est censé faire avec cette bonne nouvelle, qu'est-ce que Dieu appelle le peuple à faire par la bouche d'Ésaïe. Jérusalem, monte sur une haute montagne. Ville de Sion, crie de toutes tes forces, toi qui apportes une bonne nouvelle. Élève la voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Il est assez fort pour gouverner, il rapporte ce qu'il a gagné. Il ramène la récompense de son travail comme un berger. Il garde son troupeau. Il le rassemble d'un geste de la main. Il porte les agneaux dans ses bras. Il les conduit doucement, les brebis qui allaitent leurs petits. Il y a donc une bonne nouvelle à proclamer, même dans les moments où on ne voudrait pas le croire, dès le moment où on ne le voit pas, il y a une bonne nouvelle à proclamer. Et ces deux versets nous donnent une magnifique description de deux facettes de ce Dieu qui nous garde, qui nous aime, qui nous promet la vie éternelle. Il est un gouverneur fort et puissant qui garde et conduit son troupeau. Et il est aussi un berger tendre et doux, qui prend soin de chacune de ses brebis. Le peuple redécouvre ces deux vérités sur leur Dieu. C'est ça qui les pousse à crier et annoncer cette bonne nouvelle. Et ce même Dieu qui est aussi le nôtre nous promet la même chose en Jésus-Christ. Je l'ai mis ici. Jésus-Christ qui nous dit en Jean 10, 10, le voleur vient seulement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Il nous promet la vie en abondance. Et en Matthieu 28, 20, il nous promet sa présence. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors on dit que pour grandir sainement, un enfant cherche la sécurité, la force chez son papa et la tendresse qu'il rassure chez sa mère. Alors il y a certainement de la caricature et du vrai là-dedans. Ce qui est sûr et sans caricature, c'est qu'en Dieu, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour grandir sainement, pour nous relever et pour avancer. Il est fort et puissant. Il nous promet la vie en abondance. Il agit puissamment dans nos vies. Il est capable de guérison. Il est capable de miracles, encore aujourd'hui. Il est ce berger qui garde son troupeau, qui le conduit, qui a toutes choses entre ses mains, ce Dieu souverain. Et lorsque les choses ne se déroulent pas comme on le voudrait, quand on traverse le désert, il est aussi ce berger bienveillant et aimant qui nous promet sa présence, simplement sa présence, sans des fois rien changer à notre désert. Des fois, on traverse le deuil, la perte, et on se dit, mais pourquoi tu n'es pas ce Dieu qui agit puissamment, là, maintenant, pour moi, tout de suite? Cette fin de passage nous montre qu'il est aussi simplement ce berger qui remplit notre vide de sa présence et qui nous prend tendrement sur ses genoux, sans rien changer à la blessure de la brebis qu'il a sur ses genoux, mais en même temps en changeant toute la situation, puisque la brebis n'est pas perdue dans son champ, elle est sur les genoux de son Créateur, de son Dieu, aimant et tendre. Alors dans ce verset, on a vu dans ce chapitre, on a vu au verset 1, le peuple d'Israël est accablé. Dieu leur dit, consolez mon peuple, redonnez-lui espoir, ils sont au fond du trou. Et avec les promesses qu'on lit ce matin, ils sont censés maintenant crier cette bonne nouvelle de toute leur force au verset 9. Ça fait un joli cheminement en 9 versets. La réaction à donner, les cris de joie et de reconnaissance envers Dieu. Alors, avec ces trois vérités qu'on découvre dans ces versets ce matin, quelle est ma réaction à moi quand j'entends ces promesses? En pensant aux zones de ma vie désertiques, en pensant aux périodes ou à un proche qui traverse ces périodes, comment réagir face à ces trois vérités? J'appartiens à Dieu et il m'aime. Quoi qu'il se passe, cette vérité reste. Par amour, il me fait participer à sa victoire sur la mort et sur le temps. Quoi que je traverse, cette vérité reste également. Et dans toutes circonstances, il est aussi puissant que doux. Je suis donc gardé et chéri par ce même Dieu.
Camille, volontiers, si tu peux laisser ce qu'il y a d'affiché ici. Je vous propose qu'on s'imprègne un petit moment de ce qui nous a été partagé, qu'on relise aussi ce qu'on voit juste devant nous, et puis qu'on élève une prière tous ensemble sur ce que ça fait retentir en nous.